Nous sommes en compagnie de Tristan Guillot et nous parlons des planètes géantes en 1995, découverte des premières exoplanètes, en tout cas la première exoplanète par Michel Mayor et Didier Queloz. Grande révolution, vous faites partie de cette génération d'astronomes qui a eu la chance et le plaisir de travailler sur les premières exoplanètes. Vous avez vous-même travaillé à la détermination des tailles des exoplanètes en essayant d'imaginer ce à quoi elles pouvaient ressembler. Est-ce que finalement, aujourd'hui, nous enregistrons en 2008, il y a déjà plus de 270 planètes découvertes. On en attend des millions et dit-on des milliards dans les décennies à venir. Est-ce que finalement, les planètes géantes de notre propre système solaire sont finalement comme les autres planètes des autres systèmes ou est-ce que nous sommes encore un cas à part?
Alors... Ça, c'est une question importante et c'est difficile de donner une réponse simple. On peut dire, d'abord, les systèmes d'exoplanètes qu'on a pu découvrir sont des systèmes qu'on n'attendait pas du tout, parce qu'on a des planètes qui sont souvent très proches de leur étoile. On pensait que pour trouver des planètes géantes, on devait attendre des années parce que les planètes géantes devaient être loin de leur étoile, comme le sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. En fait, c'est pas forcément le cas. On voit bien maintenant qu'on a des systèmes avec une étoile et une planète géante qui est beaucoup plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. On a aussi des systèmes où on a des planètes géantes qui sont à des distances comparables à la distance entre Jupiter et le Soleil. Celles-ci sont plus difficiles à trouver parce que Jupiter met une dizaine d'années à tourner autour du Soleil. Donc, il faut attendre une dizaine d'années d'observation pour faire ce genre de détection. Mais donc, on a toute une panoplie de systèmes. Certains peut-être ressemblent un petit peu à notre système solaire. Pour l'instant, on a du mal à voir les petites planètes comme la Terre, encore que maintenant on est en train de faire des découvertes vraiment très intéressantes de ce côté-là. Et on a des systèmes qui sont très différents, avec des planètes géantes très proches ou avec des planètes géantes sur des orbites qu'on dit excentriques, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un cercle bien tranquille quand elles tournent autour de leur étoile, elles ont ce qu'on appelle une orbite qui est elliptique, donc qui est généralement l'orbite des comètes dans notre système solaire, donc des petits objets. Là, on a des gros objets qui ont ces orbites très étranges. Donc, on essaye de comprendre d'où cela vient. Ces planètes, en tout cas, maintenant, on est capable de les caractériser. Ça, c'est le fait nouveau de ces 8 dernières années. C'est-à-dire qu'on a un certain ensemble de ces planètes qui passent devant leur étoile et pour lesquelles on peut mesurer leur taille. On peut avoir leur masse aussi. Donc, on a leur densité, masse volumique. Et à partir de là, on a une idée de leur composition. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que on a beaucoup de planètes qui ressemblent à Jupiter, donc qui sont en taille, en densité, comparables à Jupiter et Saturne, donc faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium, mais pas toutes. On a certaines qui contiennent beaucoup plus d'éléments lourds que ce qu'on attendait. On pense que dans certains cas, on a des planètes qui contiennent 50 à 100 fois la masse terrestre d'éléments lourds. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu par les théories de formation de ces planètes. Donc on est en train de regarder ce que donnent les modèles de formation. Si on fait bouger ces planètes quand on les forme, est-ce qu'elles vont accumuler plus d'éléments lourds, former des noyaux plus gros ou enrichir leur enveloppe? Pour l'instant, c'est pas très clair, mais disons qu'on peut dire qu'on a toute une série d'objets qui ont l'air quand même de ressembler à nos Jupiter, Saturne, et même Uranus et Neptune.
Mais il vous apparaît évident aujourd'hui que les planètes sont des sous-produits de la formation des étoiles.
Ah, tout à fait.
C'était pas évident.
C'était pas évident au départ. C'est vrai que la théorie qui a été mise en avant, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, c'est que les étoiles, quand elles se forment, elles vont se former à partir de ce qu'on appelle des nuages moléculaires qui sont très très étendus, qui vont tourner sur eux-mêmes très lentement, mais quand ils vont se contracter pour former une étoile, l'étoile ne va pas se former directement comme une étoile sphérique, et puis voilà, sinon ce serait catastrophique pour nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas accumuler directement la matière à cause de cette rotation qui devient en fait trop importante lors de l'effondrement, et donc on forme ce qu'on appelle un disque autour de cette étoile en formation. Et c'est dans ce disque que vont s'agglomérer ces petits grains et qu'on va former ces planètes. Donc des petites planètes et des planètes géantes.
On peut parler de planètes super géantes, même compte tenu de la taille de ce qui a été trouvé. Enfin, moi, ce qui me surprend le plus, c'est de me dire finalement, il y a de telles tailles de planètes par rapport à leurs étoiles, qui sont parfois très petites, que la limite entre ce qu'est une planète supergéante et une petite étoile, c'est pas si clair. Il a fallu aujourd'hui la déterminer. On a donné une masse maximum, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 10 fois la masse de Jupiter.
Oui. C'est ça ? Alors, disons, tout à fait. Disons que on a d'un côté les étoiles et de l'autre les planètes. Quand on descend en masse, on sait que les plus petites étoiles qui vont brûler de l'hydrogène, comme notre Soleil, et atteindre un état d'équilibre, sont ce qu'on appelle des étoiles M. Elles font environ 70 fois la masse de Jupiter. C'est environ un petit peu moins d'un dixième de la masse du Soleil. Ensuite, de l'autre côté, donc, on a les planètes géantes, Jupiter, et entre les deux, on a découvert toute une série de petites étoiles ratées qu'on appelle des naines brunes. Ce sont des étoiles, enfin des objets qui ressemblent vraiment à des étoiles, mais qui vont être trop peu massifs pour continuer à brûler leur hydrogène et rester dans un état d'équilibre. Celles-ci, ces naines brunes, se contracter continuellement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait séparer ces deux classes d'objets entre des étoiles et des naines brunes qui se formeraient par effondrement d'un nuage moléculaire et ce qu'on appelle un mécanisme de fragmentation. Donc on va former des petits grumeaux quand ce nuage moléculaire s'effondre. Ces petits grumeaux, ça va être ces étoiles et ces naines brunes. Et puis, d'un autre côté, des planètes qui vont se former autour d'étoiles dans ces disques. Alors, ce qu'il y a, c'est que la théorie, évidemment, n'est pas en avance sur les observations. Et donc on ne peut pas dire pour l'instant, quand on voit un objet, ça c'est une planète, ça c'est une naine brune ou un objet substellaire. Donc pour l'instant, l'IAU, qui est cette instance qui donne les noms aux choses astronomiques, a décidé provisoirement de séparer les naines brunes et les planètes géantes un peu artificiellement à 13 fois la masse de Jupiter, parce que 13 fois la masse de Jupiter, c'est la limite à partir de laquelle on brûle un isotope de l'hydrogène qui est le deutérium, qui est très peu abondant, ça joue très peu sur l'évolution, sur la formation de ces objets, mais c'est une manière simple de s'en sortir. Mais ce qu'on voudrait dans le futur, c'est arriver à trouver vraiment s'il y a une séparation entre ce qui serait formé comme une étoile et ce qui serait formé comme une planète. Et pour l'instant, on ne sait pas si on peut former une planète de 5 fois la masse de Jupiter, 10 fois la masse de Jupiter, 20 fois la masse de Jupiter, et si inversement, on ne peut pas former une naine brune de 10 fois la masse de Jupiter ou 5 fois la masse de Jupiter. Alors, on a des objets qu'on a du mal à classer.
Est-ce que des planètes géantes peuvent se former dans l'univers sans qu'il y ait d'étoiles autour? On voit dans la littérature le nom de planètes flottantes, par exemple, c'est-à-dire des planètes qui ne tournent autour de rien.
Oui, alors ça, disons que si on veut appeler planète des objets qui se forment autour d'une étoile, hein, leur définition, ça va être qu'ils sont formés vraiment autour d'une étoile. Alors par contre, il peut leur arriver des choses. Ils peuvent être éjectés de ce système. Des fois, on a des environnements assez denses. Il peut y avoir des choses assez violentes. Bon, ces planètes flottantes, je pense personnellement que ce sont des objets qui sont formés plutôt comme des étoiles, parce que vraiment on a un continu des naines brunes jusqu'à des objets de plus en plus faibles, qu'on a de plus en plus de mal à voir, mais dont on sait que les masses sont assez faibles, lors de 5, 10 fois la masse de Jupiter. On ne sait pas très bien où ça s'arrête, et ces masses sont dépendantes des modèles qu'on utilise. Donc je dirais que pour l'instant c'est difficile de déterminer de quoi ils sont faits. On les a appelés super planètes parce que évidemment planètes flottantes, parce qu'évidemment ils ont des petites masses, et donc par rapport à la définition de l'IAU, ils correspondent à des planètes.
C'est une chance extraordinaire pour un planétologue de voir se former des planètes autour d'autres étoiles pour comprendre notre propre système quand même. On a des références, on peut se comparer à d'autres. Ça doit nous aider aujourd'hui à comprendre comment nous nous sommes, sans faire d'anthropocentrisme, mais en tout cas comment le système solaire s'est formé. Et je repose ma question, mais est-ce qu'on est dans ce contexte-là toujours unique, ou on est un cas parmi d'autres cas?
Alors oui, effectivement, c'est une chance extraordinaire là, parce qu'à la fois on a la découverte des exoplanètes depuis presque une quinzaine d'années, mais on a aussi la possibilité maintenant de voir des étoiles en formation, et donc ces disques circumstellaires dont je parlais, ce n'est plus qu'une conjecture, on les voit réellement. Et on espère, dans les années qui viennent, avec un instrument comme ALMA qui est en train d'être mis en place au Chili, pouvoir voir des signatures de planètes en train de se former dans ces disques. Pour l'instant, on ne les voit pas encore, mais on va vers là et avec à grands pas, je dirais. Alors, est-ce que dans ce contexte, notre système solaire est unique? Moi, je dirais qu'il semble relativement commun. On a beaucoup de systèmes, enfin une bonne proportion d'étoiles en formation, avec des disques et avec des masses de ces disques qui correspondent à ce dont on aurait besoin pour former un système solaire. Alors après, est-ce qu'on va former un système avec des planètes géantes très proches de leur étoile, ou quelque chose de plus qui ressemblera plus à notre système solaire à nous? Bon, c'est une autre question dont on n'a pas encore la réponse.
Qu'est-ce qui vous intrigue le plus aujourd'hui dans ce qu'on trouve en ce moment? Parce que c'est au quotidien, hein. Je veux dire, les planètes, il y a un compteur, on voit le compteur grimper régulièrement, mais qu'est-ce qui vous intrigue, vous, le plus dans ce qu'on trouve depuis quelques années?
Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la proportion de petites planètes dans l'univers. Ça, c'est vraiment, on voit qu'on commence à atteindre ce domaine-là, hein. On a découvert maintenant des planètes qui font seulement quelques fois la masse de la Terre. On a du mal à les trouver à des distances telles que la distance Terre-Soleil, mais on les trouve plus proches de leur étoile. Donc ça, c'est vraiment une quête très très intéressante. Et là-dedans, se pose toutes les questions liées à la formation des systèmes planétaires. Pour l'instant, il y a énormément de questions qui se posent. On ne comprend pas Donc je le disais, pourquoi est-ce que des planètes géantes peuvent accumuler autant de masse en éléments lourds? On commence à avoir des éléments, on ne comprend pas pourquoi elles ont des excentricités si élevées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'impacts géants entre des planètes qui pourraient rentrer en collision les unes avec les autres au cours de la formation de ces systèmes? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent et on commence à avoir les éléments observationnels pour répondre à ces questions.
Il faudra affiner les observations et être capable de trouver des objets petits. Dans ce que vous nous avez dit on commence à caractériser ces planètes, c'est-à-dire avoir des informations qui sont des informations de taille, de masse. Est-ce qu'on a aussi une certaine idée de la composition de ces objets ?
Oui, alors donc on arrive à faire des choses qu'on pensait pas possibles il y a seulement quelques années. Donc déjà, on a des planètes dont on connaît la taille et la masse. Donc là, on a une idée de la composition globale, mais aussi, et c'est en général le cas pour des planètes qui passent devant leur étoile, on peut étudier la composition de leur atmosphère. Évidemment, on n'est pas capable de faire les choses aussi finement qu'on peut le faire pour Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, mais on arrive à détecter quelques éléments, comme par exemple le sodium, comme par exemple, on a vu des signatures de l'eau, sous forme de vapeur, peut-être du méthane aussi, de composés de l'hydrogène en train de s'évaporer de ces planètes. Donc on arrive à commencer à caractériser les atmosphères de ces planètes. Et on arrive même à faire de la météorologie, je dirais, de ces planètes. Il y a quelques années, on avait travaillé de manière théorique à essayer de comprendre comment la chaleur était redistribuée dans les atmosphères de ces planètes géantes qui sont très proches de leur étoile. Parce que ces planètes, elles ont tendance à ce qu'on appelle être synchronisées, comme la Lune présente toujours la même face à la Terre. Et donc, on pense qu'il y a un côté qui est chaud et l'autre qui est plus froid. Et la question se posait de savoir est-ce qu'il y aurait une redistribution assez efficace de la chaleur qui ferait que toute l'atmosphère serait à la même température ou non. Et ce qu'on avait prédit avec un chercheur américain à l'époque, c'est qu'il devrait y avoir des différences de température entre le côté jour et le côté nuit de l'ordre de plusieurs centaines de degrés. Il faut savoir que pour ces planètes très proches de leur étoile, elles sont chauffées à 1500, 2000 degrés, donc elles sont très très chaudes. Et actuellement, on est arrivé à mesurer ces différences de température et on est arrivé aussi à mesurer quelque chose qu'on avait prévu, c'est qu'il y a un écart entre le point le plus chaud et le point substellaire, c'est-à-dire le point qui fait directement face à l'étoile. En fait, on trouve que le point le plus chaud ne fait pas face à l'étoile parce qu'on a des vents qui transportent la chaleur sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qui est mesuré par, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour être un petit peu technique, la courbe de lumière dans l'infrarouge de ces planètes-là. Donc on a vraiment la première météorologie d'une planète extrasolaire. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Très excitant. Hein.
Ah oui, tout à fait.
on ne parle, je dirais pour conclure, dans le système solaire, que des planètes les plus, politiques. Allez, on va parler de Mercure, Vénus, surtout Mars, et en passant par la Lune. Est-ce que le spécialiste des planètes géantes que vous êtes et des intérieurs de planètes ne regrette pas finalement cet état de fait en se disant mais alors les principales planètes les plus grosses sont celles qu'on n'explore pas, or il y a un travail là aujourd'hui encore fondamental à faire et finalement ça se fait au détriment de notre science, ou est-ce que finalement le meilleur aujourd'hui outil dont vous disposiez c'est ce qui se passe à l'extérieur de notre propre système pour être capable d'acquérir des outils nous permettant de comprendre comment fonctionne le nôtre?
Je pense qu'effectivement, il faut faire les deux en parallèle, c'est-à-dire que pour les planètes géantes de notre système solaire, on peut avoir des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus fines que ce qu'on pourra jamais avoir avec des planètes qui sont à des centaines d'années-lumière de nous. Dans le cas de Jupiter, par exemple, la sonde Galileo, qui est allée dans l'atmosphère de la planète, a permis de mesurer des abondances de gaz rares, c'est-à-dire le néon, le krypton, l'argon et le xénon. Alors, ce sont des gaz un petit peu exotiques, peu abondants, et qui sont très difficiles à détecter de façon, enfin, du sol, ou sans aller directement dans l'atmosphère d'une planète. Donc, on ne peut pas le faire dans le cas d'une planète extrasolaire. Or, on a trouvé que ces éléments étaient en surabondance. Or, on pensait qu'ils devaient être avec une abondance solaire, ils devaient être amenés avec l'hydrogène et l'hélium. Le fait qu'ils soient en surabondance nous indique qu'il y a eu un mécanisme qui a enrichi soit des solides, soit le disque du système solaire jeune en ces éléments. Donc, ça nous permet de retracer notre histoire. Peut-être on a eu, on était dans un amas assez dense, qu'on a eu photoévaporation du disque qui a permis enrichissement de tout ce système. Donc, la petite histoire de notre système solaire, on ne peut la comprendre qu'en regardant en détail ce qui se passe dans tout notre système solaire, y compris bien sûr les planètes géantes, et puis en mettant ça en parallèle avec des choses plus globales qu'on peut acquérir avec les planètes extrasolaires. Alors, il y a plusieurs projets quand même pour aller vers les planètes géantes de notre système solaire. Il y a le projet Juno de la NASA, dont je fais partie, qui va aller vers Jupiter autour de 2016. Et puis, il y a deux projets de l'ESA dans le cadre de ce qu'on appelle Cosmic Vision, qui sont Laplace et Tandem, qui prévoient d'aller dans le système de Jupiter pour l'un et dans le système de Saturne pour l'autre. Donc, j'espère que l'exploration de notre système solaire va se poursuivre, effectivement, sans oublier ces planètes géantes qui sont très intéressantes.
Show must go on.
Oui.
Merci Tristan Guillot. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.